Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
حصول المرأة على حقوقها وعلى حياة عادلة خالية من العنف هو شكل من أشكال الحريات والعدالة الاجتماعية، ولهذا نظمت جمعية راج في إطار تخليدها لذكرى أحداث أكتوبر 1988 محاضرة بعنوان النضال من أجل المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، التي أقيمت مساء يوم 7 أكتوبر 2016 نشطتها كل من السيدة تينهنان مكاسي رئيسة جمعية تروى فاطمان سومر، السيدة شريفة خدار رئيسة جمعية جزائرنا، والسيدة العليا ديكوس ناشطة جمعوية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بفرنسا. استهلت تينهنان مكاسي المداخلات بتطرقها لموضوع بالغ في الأهمية، ألا وهو الفجوة القائمة بين الجيل القديم والجيل الجديد من الناشطات في الحراك النسوي بالجزائر، وتكلمت عن نقاط الاتفاق والاختلاف، كما ركزت على أخطاء المناضلات السابقات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والتي بحسبها يجب تفاديها من طرف المناضلات الحالية.
Mon intervention vient essentiellement de mon expérience. C'est qu'aujourd'hui dans les on remarque, c'est pour ça que je me suis bien concentrée à dire que c'est un constat sur les associations. Ce constat n'est pas propre à l'Algérie, bien évidemment, c'est qu'il y a deux générations, une nouvelle génération, la Hilahra, qui veut militer. Mais le problème, c'est que l'ancienne génération ne laisse pas vraiment de terrain à cette nouvelle génération pour militer. Comme je l'ai expliqué, c'est un rapport de pouvoir. Il ne faut pas s'imaginer, quand je parle de rapport de pouvoir, c'est pouvoir comme traditionnel. Il faut toujours le prendre au second degré. Mais on est en train de faire face aujourd'hui, quand une nouvelle génération de militantes arrive, c'est un enrichissement. Mais le problème, c'est que cet enrichissement est à la fois une menace et à la fois le déterminant de la survie du mouvement féministe. Et si on met pas à l'ordre du jour les bilans, quand je dis bilan, il faut aussi se dire qu'aujourd'hui le féminisme il est extrêmement fragilisé. Il est fragilisé par la perte de mémoire, il est fragilisé par le fait qu'il n'est pas théorisé. On vient d'une histoire très riche de féministes, mais qui a été frappée par une cassure de 10 ans, ou bien plus encore. Et l'ancienne génération qui était dans des luttes de survie n'ont pas eu le temps ni le recul de faire leur travail de transmission et leur travail de mémoire. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Maintenant, nous, par exemple, ma génération, on doit aussi apprendre des erreurs de l'ancienne génération. C'est qu'on se revendique héritière de cette génération, mais aussi on doit se dire qu'en même temps, on doit être dans les luttes de survie comme l'ancienne génération, mais aussi qu'on doit aller vers la théorisation d'un côté, mais aussi à la transmission. Tout à l'heure, je l'ai dit qu'il y a des questions sur lesquelles l'ancienne génération ne peut plus, la remise en cause, etc., dont au sein des associations opaques, ne peut plus s'opérer. Mais nous, on peut l'opérer. Mais aussi en accueillant de nouvelles militantes. C'est pour ça que la nouvelle génération préfère une nouvelle forme d'organisation qui est le collectif, puisqu'il permet plus de mouvements, plus de liberté, liberté dans la manière de concevoir la lutte.
أما مداخلة السيدة شريفة خدار كانت حول القوانين وأهم الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، كما تطرقت لموضوع النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من طرف الجماعات المسلحة خلال العشرية السوداء.
شريفة خدار رئيسة جمعية جزائرنا لضحايا الإرهاب الإسلامي، دونك لانترفونسيون تاعي كانت بارتيكولييرمون سور لي ميكانيزم انترناسيونو régionaux et nationaux sur relatifs aux droits des femmes, donc disons égalité en PAM, et relatifs aussi à la lutte menée contre les violences faites aux femmes. Donc je n'ai pas parlé parce que vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, plutôt j'ai cité les mécanismes plutôt que de bien les expliquer, et la ratification de l'Algérie à la CEDA, ou pacte des droits civiques, économiques et politiques, et droits culturels, sociaux et culturelle. L'Algérie a aussi signé le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais ne l'a pas à ce jour ratifié. Donc l'Algérie est l'un des derniers pays en Afrique qui n'a pas encore ratifié ce protocole. Donc c'est une grande atteinte à la dignité de la femme algérienne de savoir que son État, l'Algérie, n'a pas encore ratifié ce protocole. L'Algérie a mis en place en 2007 donc la stratégie nationale sur la lutte relative à la lutte des violences contre les violences faites aux femmes grâce à l'adhésion de l'Algérie aux OMD du millénaire. Les objectifs du millénaire, et donc je pense que c'était l'objectif numéro 8 ou numéro 3 relatif aux violences faites aux femmes. Et donc cette lutte, je pense que ça aboutit quand même au projet de loi présenté par le gouvernement, conseil du gouvernement sur les violences faites aux femmes. Donc le projet de loi qui est passé devant l'APN en mars et qui a été adopté par le conseil de la nation le 10 décembre 2015. Cette loi est une avancée pour la situation des femmes en maltraitance qui subissent des violences. Bien qu'il y ait encore des pas à faire, les revendications des féministes sont claires. Le retrait de l'article concernant le pardon, parce que le pardon de la victime vis-à-vis de son mari met fin aux poursuites de l'action publique. Et c'est très grave, poursuite judiciaire, parce que l'action publique s'éteint. L'action publique aussi ne s'éteint pas en cas d'infirmité, mais la peine elle est réduite de moitié. Quand même. Nous revendiquons aussi la modification du code de procédure pénale afin que tous les articles qui ont été modifiés dans le code pénal puissent être facilement applicables. Voilà, c'est pour cela. Et donc, nous avons tout à l'heure parlé surtout des droits privés, du droit privé. Pourquoi ? Parce que nous avons estimé que dans le monde arabo-musulman, il n'y a pas une grande résistance au droit public, à la place de la femme dans la sphère publique. Par contre, il est vraiment difficile de faire passer, de faire évoluer les lois dans la sphère privée. Quand on dit sphère privée, on dit famille, on dit couple, on dit vie conjugale, on dit succession des biens, c'est-à-dire l'héritage. Donc, et toutes ces questions qui ont été codifiées et consacrées par le Code de la famille comme étant des articles inspirés de la charia, inspirés du Coran et tout ça. Donc, c'est difficile de faire, c'est dans ce cas-là que c'est difficile de faire avancer la question des femmes dans la sphère privée, puisqu'il y a résistance des religieux, des conservateurs, et puis résistance de ceux qui ne comprennent rien au Coran, qui ne comprennent rien à l'islam, mais qui essaient de le défendre à travers une loi qu'ils n'ont même pas lue. Voilà, donc de toute façon, mon intervention s'est articulée autour des axes du droit privé, donc disons code de la famille avec les insuffisances, mariage, divorce, autorité parentale, garde des enfants et héritage. Les femmes violées par les islamistes pendant la décennie noire ou la décennie rouge a vu enfin la promulgation d'un texte pour indemniser les femmes violées. Et puis, l'avancée la plus noble, c'est que c'est pour la première fois qu'on voit le terme irtisab dans la loi. Parce que le viol, il existe en français, mais en arabe, il n'est pas traduit comme irtisab, mais comme atteinte à quelque chose, à l'honneur. Et donc, il y a eu cette avancée, l'indemnité, c'est une avancée. Mais ce qui reste, bien entendu, c'est le plus important, c'est la réparation juste au préjudice subi. Et quand on dit réparation juste au préjudice subi, bien entendu, on parle de tout le travail qui doit être fait autour de la mémoire, tout le travail qui doit être fait autour de la vérité et tout le travail qui doit être fait autour de la justice. Parce que ces femmes-là doivent obtenir justice. Elles ont subi des violences, elles ont subi des viols et l'État ne les a pas protégées à un moment donné. Et l'État doit les reconnaître comme victimes, comme l'a déjà fait à travers ce texte, mais doit quand même poursuivre ses efforts, c'est-à-dire cet État doit poursuivre ses efforts pour que la réparation soit entière.
السيدة العالية ديكوس ناشطة في مجال حقوق المرأة بفرنسا تكلمت عن أوضاع المرأة المغتربة وما تعاني منه من عوائق إدارية وقانونية.
العالية ديكوس، je suis militante des droits des femmes. Je suis en France. Je suis présidente d'une association justement qui défend les droits des femmes et la citoyenneté. C'est Initiative de femmes pour la citoyenneté et les droits universels. Et je suis également membre de Femmes solidaires et je suis très attachée à l'association Africa 93, qui est une association qui travaille sur le terrain avec justement surtout dans un milieu très défavorisée à La Courneuve, et avec donc les femmes de l'immigration ou issues de l'immigration. Les femmes immigrées, qu'elles soient algériennes ou marocaines ou égyptiennes, les femmes immigrées ou issues de l'immigration, restent régies par le code du statut personnel, le code, ce qu'on appelle le code de la famille, de leur pays quand elles ont affaire à un problème donc de droit de la famille, même si elles sont françaises. Bien souvent, il y a des recours possibles, mais elles ne connaissent pas ces recours. Et elles viennent dans les associations quand elles sont dans des difficultés, quand elles sont dans des difficultés de violence conjugale ou de violence familiale. Et là, on se rend compte que les accords bilatéraux, justement, qui permettent l'exéquature de certains actes de statut personnel, vraiment défavorisent les femmes immigrées et en font des citoyennes de seconde zone. Même si elles sont françaises, elles n'ont pas la pleine citoyenneté. On a rencontré beaucoup de personnes, on a vu beaucoup de cas, notamment avec les associations que j'ai annoncées. On s'est rendu compte que la femme, elle reste liée à celui de son époux, au statut de son époux. Elle reste subordonnée à la nationalité de son conjoint. Et si jamais le conjoint décide de retourner seul au pays, l'épouse, on lui retire son titre de séjour. Donc, si par exemple aussi elle est veuve ou si elle divorce, elle a aussi, la France lui retire le titre de séjour. Elle n'a pas un statut autonome. Elle n'a pas un statut autonome. Et donc, c'est avec la sénatrice Marie-Georges Buffet, et après plusieurs assemblées, etc., on a pensé qu'il était nécessaire de présenter, que la sénatrice Marie-Georges Buffet présente un projet de loi demandant un statut autonome pour les migrantes. Voilà, cette loi a été déposée, elle a été à l'Assemblée. Malheureusement, elle n'a pas été prise en considération. Et il y a trois points qui ont été vraiment pris en considération. Mais le plus important est qu'on ne parle plus de violence conjugale, mais de violence familiale. C'est le point le plus important. Voilà. Mais la lutte continue pour exiger ce statut autonome pour les migrantes.
السيدة حسيبة بن طيب مناضلة في نقابة الكلاك كانت حاضرة معنا أثناء اللقاء. تكلمت لنا في ميكروفون إذاعة صوت الشباب عن نضالات المرأة الجزائرية منذ الثورة إلى يومنا هذا، خاصة المرأة العاملة حاليا، فهي تعاني من مشاكل خاصة في محيطها العائلي وفي مكان العمل.
حسيبة بن طيب أستاذة في الرياضيات في سنديكا لوكلاك Conseil des lycées d'Algérie. La femme algérienne a toujours participé à tous les combats. La preuve, c'est qu'avant de parler du mouvement des femmes, il y a eu déjà les moudjahidettes et les chouhadettes. Donc, la femme n'a pas hésité à laisser son foyer, à laisser l'école, à laisser tout son environnement pour prendre des armes et lutter contre le colonialisme français. Malheureusement, à l'indépendance, ils ont invité ces femmes-là à rejoindre leur cuisine, au lieu de Ched Kouf, le combat, parce que après il y avait la construction de l'État algérien et où tout il fallait commencer à zéro. Mais la femme était consciente, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué à lutter. D'où il y a eu des mouvements de femmes, d'abord au sein de l'UNFA, ensuite il y a eu des mouvements tout à fait autonomes de revendication d'égalité entre hommes et femmes. Nous, heureusement, c'est pas comme le cas de la France. Il y a des déjà une avancée. Du point de vue salaire, la femme touche exactement. En France, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le salaire de la femme est inférieur au salaire de l'homme, alors qu'il part d'égalité. Donc, voyez le problème, comment il est posé. Maintenant, il y a des métiers où la majorité, c'est des femmes. Je cite l'enseignement, la médecine, les magistrats, etc. Et ce n'est pas sciemment. Si ces femmes-là ont choisi ces métiers, c'est parce que ça les libère, mais surtout pour pouvoir, à leur travail, parce que le travail, on dit qu'il libère, mais nous, c'est des conditions économiques qui ont poussé la femme à travailler. Ce n'est pas un leurre. Et, quand elle est mariée, elle doit assumer toutes ses tâches, et parfois toute seule, les enfants, etc. Il n'y a pas suffisamment de crèches pour ça. Donc la femme est pratiquement épuisée ça l'imam. La preuve, si vous allez voir le nombre de personnes qui prennent des retraites anticipées, c'est des femmes. Parce que l'homme, en général, continue à travailler jusqu'à 60 ans, la femme ne peut pas. Parce qu'elle a assumé deux travaux en même temps. Le travail, son travail et le ménage à la maison. De toute façon, on est majorité des femmes, d'abord. Deuxièmement, en tant que SATIDA, les problèmes socio-professionnels, notamment augmentation de salaire, etc. Mais là, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Maintenant, on a des spécificités pour les femmes. Par exemple, on demande qu'il y ait plus de crèches, etc. C'est-à-dire pour que la femme puisse assumer son travail convenablement. En tant que femme, le problème que touche la femme nous touche aussi. Quoique là, je vous dis, dans le syndicat, c'est des problèmes socio-professionnels qui touchent aussi bien les hommes que les femmes, sauf que la femme a des problèmes spécifiques.
كان هذا جزء من المداخلات للأخصائيين في هذه المحاضرة التي دارت حول قضايا المرأة الجزائرية منذ الاستقلال وإبان العشرية السوداء إلى يومنا هذا. نضالات أجمع الحاضرون أنه كان للمرأة الجزائرية دورا كبيرا في النضال جنبا إلى جنب مع الرجل إبان ثورة التحرير وكذلك بعدها في البناء الديمقراطي كقطعت شوطا كبيرا في مجال النضال من أجل حريتها وانتزاع حقوقها وما زالت تناضل إلى يومنا هذا لإرساء أسس المساواة والعدالة الاجتماعية.
راديو راج، voix de jeunes، une radio libre pour une parole libre.